DW. Pulsation.
Que ce soit le mariage des enfants ou le mariage sans le libre consentement des deux parties, ces deux actes constituent des violations des droits humains. En Sierra Leone, où le concubinage avec un mineur est une pratique répandue, une loi vient d'être promulguée pour interdire et criminaliser ce type d'union. On en parle cette semaine dans le magazine Pulsation et on va voir en quoi l'école est l'une des meilleures armes pour prévenir les mariages forcés. À propos d'armes, on se penche aussi sur les dégâts causés par les armes légères. Et puis en fin d'émission, coup de projecteur sur l'OTAN qui fête ses 75 ans. C'est Constance Fischer au micro, soyez les bienvenus.
Le saviez-vous ?
Le 9 juillet, c'est la journée de la destruction des armes légères. Elle a été lancée cette journée par les Nations Unies en 2001. Comment une arme qui, par définition, est un outil destiné à détruire peut-elle être légère, me direz-vous ? Eh bien, en fait, cette expression est utilisée par opposition à arme lourde. Une arme légère ou de petit calibre peut être transportée et utilisée par un individu ou un petit groupe d'individus. Dans cette catégorie entrent, par exemple, les pistolets, les fusils ou les mitrailleuses légères, mais aussi les lance-grenades ou les lance-missiles. À l'inverse, une arme lourde est une arme à grande capacité destructrice. Elle implique l'emploi de plusieurs hommes. Les armes légères sont peu coûteuses, faciles à manipuler, à transporter et à cacher. Et leur commerce illicite pose de gros problèmes, d'où l'idée de cette journée. Car même si les conflits ne s'expliquent pas par la seule accumulation des armes légères, le fait qu'elles circulent aussi sans contrôle et qu'elles soient disponibles partout dans le monde aggrave les tensions. Et dès lors, c'est un cercle vicieux. Les tensions sont source de violence, les violences accentuent le sentiment d'insécurité et celui-ci stimule à nouveau la demande d'armes. Selon Amnesty International, la plupart des conflits aujourd'hui sont menés essentiellement avec des armes légères et celles-ci sont majoritairement détenues par des civils. Outre les guerres civiles ou entre États, les armes légères sont aussi utilisées dans les activités terroristes, le crime organisé ou les affrontements entre gangs. Avec la journée du 9 juillet, les Nations Unies visent à sensibiliser sur les dangers de la prolifération des armes légères et à encourager les États à s'engager dans leur élimination. À ce jour, le traité sur le commerce des armes, qui réglemente le commerce international des armes classiques, notamment légères, compte 114 États parties, c'est-à-dire qui ont ratifié le texte, et 28 États signataires. 53 États dans le monde n'ont pas encore rejoint le traité, dont 13 sont africains. Vous écoutez Pulsation sur les ondes de la Deutsche Welle et vous écoutez Mariama Diallo. Elle est née en 1986 à Freetown, en Sierra Leone. Et c'est là-bas qu'on se rend dans un instant. Stop playing with my heart. C'était il y a une semaine exactement en Sierra Leone, le président Julius Mada Bio promulguait une loi qui interdit le mariage des enfants de moins de 18 ans. Le texte expose les contrevenants à au moins 15 ans de prison et une amende d'au moins 50 000 léones, soit plus de 2000 euros. On en parle avec Fatou Gaye Ndir, chargé de plaidoyer auprès de filles, pas épouses. C'est un réseau mondial qui regroupe plus de 1400 organisations de la société civile des organisations qui œuvrent dans plus de 100 pays pour mettre fin au mariage des enfants et concourir à l'autonomisation des jeunes filles. Fatou Gaindir est actuellement au Sénégal et elle nous dit d'abord comment elle a reçu l'annonce de la promulgation de cette loi en Sierra Leone.
Bonjour et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. En tant que fille par épouse, nous accueillons avec joie ce projet de loi et nous pensons que cette loi est susceptible d'avoir des retombées importantes sur les autres filières, notamment l'éducation et la santé, entre autres.
L'organisation Save the Children a salué un texte historique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Est-ce que vous pensez que cette loi sera suffisante? Est-ce que, par exemple, c'est son application qui risque de poser problème?
Les lois sur les mariages des enfants sont importantes, mais les données disponibles montrent que pour créer les conditions essentielle à l'indépendance sociale, économique et politique des jeunes filles et des femmes. Ces lois-là doivent s'accompagner d'un investissement du gouvernement dans des services et des politiques de transformation de genre, une collaboration également avec la société civile pour transformer, comme nous l'avons vu, les mariages d'enfants sont liés aux attitudes et normes sociales, comment également transformer ces normes-là qui dévalorisent systématiquement les filles. Donc une approche globale est nécessaire pour s'attaquer aux causes profondes du mariage des enfants et sur l'inégalité entre les sexes.
Et est-ce à dire que les autorités en Sierra Leone auraient pu ou devraient à l'avenir faire plus?
Donc un constat que je veux vraiment souligner dans de nombreuses communautés où les mutilations génitales féminines sont répandues, le mariage des enfants est également courant. Les mutilations sont souvent liées à des notions associées à la mariabilité d'une fille et également pour précéder le mariage d'enfants. C'est effectivement problématique. Donc, pour être efficace, il faut vraiment harmoniser les lois en adoptant également des lois qui interdisent les mutilations génitales féminines.
Y a-t-il d'autres pays en Afrique francophone où on nous écoute qui vous donnent particulièrement du travail ou qui sont cause de soucis au sein de votre organisation?
En revenant à l'Afrique et également francophone, le taux est effarant. Selon l'UNICEF, 39% des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans en Afrique occidentale et centrale. Donc, exacerbé également par les crises sécuritaires, particulièrement le Burkina Faso, au Niger, l'impact de la COVID-19 qu'on ressent toujours. Mais nous voyons que ces taux varient considérablement également en fonction du contexte, selon qu'on est en zone rurale ou en zone urbaine. Et les projections du maintien d'ici 2050, si les efforts ne sont pas accélérés.
Parce que être mariée avant 18 ans, concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour une jeune fille, justement, au niveau de son éducation?
Oui, le mariage d'enfants, donc le mariage avant 18 ans, a beaucoup de conséquences sur les filles. Souvent, les filles mariées tombent enceintes à l'adolescence, ce qui augmente le risque de complications pendant la grossesse, pour elle et pour le bébé. Cette pratique les isole également de leur famille, ce qui les empêche de participer activement à la communauté, ce qui entraîne des coûts économiques considérables au niveau national avec des conséquences majeures en matière de développement et de prospérité. Le mariage, enfin, prive les filles de leur enfance et constitue vraiment une menace. Elles sont exposées à la violence domestique, retrait à l'école, ce qui impacte négativement sur leur situation économique et sanitaire.
Et à l'inverse, hein, l'éducation, vous citez cela comme l'un des meilleurs moyens en fait, pour prévenir le mariage des enfants. Pourquoi?
L'éducation joue un rôle très, 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 très important sur la fin des mariages d'enfants. Qu'on se rend compte qu'une éducation de qualité donne aux filles les compétences nécessaires pour prendre des décisions sur leur vie, mais également participer à la vie économique, sociale et politique de leur communauté. Contribuer également à l'égalité entre les sexes et également une réduction des pratiques néfastes comme ce mariage des enfants. On l'a vu aussi l'effet générationnel. L'éducation des filles a des effets positifs sur les générations futures. Nous avons vu que les mères éduquées sont plus susceptibles de veiller à ce que leurs propres enfants soient scolarisés en bonne santé. Donc, en résumé, l'éducation joue un rôle crucial dans la prévention du mariage d'enfants et dans l'amélioration des perspectives de vie des jeunes filles.
Fatou Gaindir, responsable de plaidoyer à filles, pas épouses, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Coup de projecteur.
L'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, a 75 ans, un âge où il est sans doute permis de souffler deux fois ses bougies. Une première fois, c'était en avril dernier à Bruxelles, siège de l'OTAN, et parce que l'alliance militaire et politique a été créée le 4 avril 1949, c'était pour répondre à l'époque à la menace soviétique, et une seconde fois à partir de ce mardi à Washington, aux États-Unis. 32 pays membres sont attendus pendant trois jours dans la capitale américaine pour participer aux cérémonies marquant cet anniversaire symbolique. Un autre anniversaire symbolique fut le 10e, c'était donc en 1959. Et pour se faire un peu de publicité, eh bien l'OTAN avait commandé à Bing Crosby rien de moins qu'une chanson. Bing Crosby, figure majeure du cinéma et de la chanson américaine du début des années 30 jusqu'aux années 1970. Et si son nom ne vous dit rien, la chanson White Christmas, elle, vous dit sûrement quelque chose.
I'm dreaming of a white Christmas.
C'est en tout cas pour son interprétation qu'il est le plus connu et c'est le single physique qui a été le plus vendu de tous les temps. Mais revenons à sa chanson pour l'OTAN. Après diverses prises en studio, le petit texte mis en musique donne ceci.
Here we go, you're rolling?
Merci pour votre écoute.
Go.
À la prochaine et tchuss.
10 years have passed since people lived in fear and dread. When hope and independence died and dark aggression spread. Then NATO went on guard and freemen ceased to yield. We live again in peace and strength behind the NATO shield. We live again in peace and strength behind the NATO shield.